Et allez, on remet le couvert.
Mais pour l'actu locale,
on se met à découvert.
Les instants des Bartas.
Ce sont des interviews, des reportages ou des chroniques.
Les lundis et mercredis à 8h30.
Les mardis, jeudis et samedis à 17h.
Ou le vendredi à 11h.
Un créneau curieux de tout.
Qui parle de vous.
Du local et un peu d'autre chose.
Les instants des Bartas.
Sur le 107 FM.
Possibilité de tout, là, oui.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue à vous qui nous écoutez sur le 107 FM ou sur radiobartas.net. C'est encore Marianne au micro de cette émission aujourd'hui et je suis très contente de partager un nouvel instant des Bartas avec vous. Au sommaire de ces instants des Bartas, autrement dit, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui ? Eh bien, nous allons tout d'abord parler environnement et changement climatique. Nous recevrons Héloïse Pantel qui est naturaliste et qui vient nous expliquer son travail. Ensuite, nous irons nous promener à Chanac, car nous avons eu le plaisir avec Ben de nous y rendre pour le Festival au son au début du mois d'avril. Et c'est là que nous avons rencontré Fabien Moutet, qui nous expliquera le pourquoi et le quoi qu'est-ce de ce Festival au son. Allez, en entrée, l'environnement et le changement climatique, c'est un sujet que l'on entend partout, beaucoup. Mais c'est un sujet qui, je pense, est super important. On est tous conscients, ou plus ou moins conscients aujourd'hui, que la situation climatique est catastrophique. On parle de crise, d'urgence climatique. Nombreuses sont les structures qui tirent la sonnette d'alarme et qui appellent à une mobilisation générale pour éviter ou limiter la catastrophe. On entend parler de transition écologique, de situations environnementales aggravées et aggravantes, parfois irréversibles. On entend aussi parler de l'éducation, et je parle ici de l'éducation avec un grand E qui est en train de se casser la figure, et nous sommes nombreux à avoir le sentiment que l'on va droit dans le mur. Pour celles et ceux qui se sentent concernés, on essaie, chacun et chacune à notre échelle, dans nos microcosmes, d'établir des actions, de faire des choix, de prendre des décisions, afin d'avoir le moins d'impact possible sur ces dégradations. Tout le monde se pose mille et une questions sur que faire, quand et comment le faire, qui doit faire quoi. Et parfois, nous n'avons pas de réponse. Faut-il continuer le combat ou est-ce que c'est déjà trop tard? Je n'ai pas la réponse non plus. Mais je crois que l'important, c'est de ne pas abandonner et surtout de ne rien lâcher. On lâche rien. Et on interlude. Oui, c'est un verbe, si je veux, d'abord. J'interlude, tu interludes, nous interludons. En musique avec les oiseaux de Balavoine.
Nous ne pourrons aller avant longtemps.
Vous êtes sur Radio Bartas, bonjour à toutes et à tous, et dans ces instants des Bartas, nous recevons aujourd'hui Héloïse Pantel. Héloïse, bonjour.
Bonjour.
Et nous sommes ravis de t'accueillir dans les studios de la radio. Tu viens nous parler aujourd'hui de ton travail, parce que nous avions envie d'en savoir plus, que ça nous intéresse, et que je suis certaine que beaucoup de nos auditrices et auditeurs sont également curieux de connaître ton activité. Est-ce que tu peux nous expliquer tout d'abord qui tu es ? En quoi consiste ton travail et comment en es-tu arrivée à ce que tu fais aujourd'hui ? Allez, on veut tout savoir.
Bien sûr. Alors moi, je m'appelle Héloïse, du coup, je suis lausérienne. J'ai toujours, enfin quasiment toujours vécu en Lozère, sur le mont Lozère même. Et voilà, j'ai été sensibilisée très tôt à l'environnement, à la nature en général. Et puis, j'avais une personne dans ma famille qui était très forte et qui m'a appris beaucoup de choses. Et quand est venue la question de qu'est-ce que je veux faire plus tard, j'avais aucune envie d'aller à l'université, donc j'ai choisi un chemin un peu aléatoire et qui suivait pas les chemins classiques, on va dire. Et du coup, de fil en aiguille, voilà, j'ai fait mes études sur l'environnement et voilà, quelques années plus tard, animatrice nature à la Ligue de la protection des oiseaux. En Lozère, qui est une délégation toute récente, puisqu'elle n'a que 4 ans, je crois, à peu près.
Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait comme étude ?
Alors, j'ai commencé par un BTS GPN, donc ça veut dire gestion et protection de la nature. Et puis, mes profs m'ont invité à continuer, donc j'ai fait une année de plus, pardon. Et j'ai continué pour faire une licence pro. Attention, ça va être long. Gestion et animation des espaces montagnards et pastoraux. Et donc ça, c'est une licence qui était plutôt axée sur l'agriculture et le monde pastoral en montagne, qui m'a beaucoup appris, mais qui aujourd'hui me sert un petit peu moins parce que c'était plutôt concilier tous les acteurs d'un territoire plutôt rural, pastoral, et aujourd'hui je m'en sers un peu moins, même si voilà, ça m'a donné quelques bases quand même.
Donc ce que je comprends, c'est que c'est une passion, et ça c'est super. J'ai aussi entendu dire que tu travaillais au Réel 48. Quel est le lien avec le Réel 48 ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que c'est ?
Alors, le Réel 48, c'est une structure assez particulière ici. Donc, ça a été labellisé CPIE, donc ça veut dire Centre Permanent d'Initiative pour l'Environnement. C'est des structures qui sont, on peut en trouver un petit peu partout en France. Je crois qu'il y en a une vingtaine, mais je dis peut-être une bêtise. Et ici, donc, leur objectif, c'est de... comment on va dire ça ? De mettre en relation tous les acteurs de l'environnement sur le territoire, sur des thématiques très très larges. Ça peut être l'alimentation, la gestion des déchets, la gestion de l'eau, l'éducation à l'environnement. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup d'acteurs. Tous ces acteurs sont adhérents du Réel CPIE et ils travaillent ensemble sur différents projets sur le territoire. Et nous, à la LPO, on a notamment... un partenariat qui consiste à, voilà, ces petits carnets que j'ai là, c'est l'animation et des ENS, donc des espaces naturels sensibles de Lozère, qui sont des espaces normalement qui sont gérés et animés par le département. Mais là, le département a délégué cette mission au Réel CPIE. Et donc, tous les adhérents du Réel CPIE sont invités, enfin, pas tous, mais une partie sont invités à venir animer sur ces lieux. Par exemple, cette année, moi, j'ai 3 animations qui seront dans les gorges du Bramont, sur le Balduc, le truc de Balduc, et une dernière sur les bandons, voilà. Donc c'est assez large, et puis il y en a qui vont même sur la Marjorie, sur l'Aubrac. Et donc il y a des acteurs aussi là-haut qui sont en relation directe avec le réel. Donc c'est une structure vraiment très large, quoi.
Tu travailles donc avec eux. Est-ce que tu travailles avec d'autres structures? Est-ce que tu interviens avec d'autres partenaires, d'autres...
Alors moi, le gros de mon travail se déroule à Bec de Jeu aussi. Bec de Jeu, c'est donc une structure de la Ligue de l'enseignement et qui accueille beaucoup de... Enfin, quasiment que des scolaires. Et donc moi, j'interviens avec eux. Je viens en renfort à leur équipe. Et voilà, on accueille des écoles de partout en France, de Paris comme de Montpellier. Et on, généralement, ils passent entre 2 jours et 1 semaine, 10 jours sur place. Et on vient voilà, partager avec eux un petit moment. Sur, ça peut être sur n'importe quoi, sur une rando en forêt, sur les oiseaux, sur les traces et indices d'animaux, sur le loup, sur plein de thématiques différentes qu'ils auraient peut-être pas abordées directement en classe. Donc voilà, c'est des petites classes vertes comme ça, voilà. Et puis après, tous les partenaires, ça va être toutes les écoles du territoire qui souhaitent partager aussi à leurs élèves un petit temps sur l'environnement. Donc voilà, j'interviens aussi dans les écoles de Lozère.
Est-ce que tu as une journée type? Ou bien justement, est-ce que chaque jour est différent? Oula. Tout dépend ce qu'on te demande. Comment ça organise? Comment tu prépares ton travail?
Pour le moment, il n'y a absolument pas de journée type. J'ai quand même une petite partie du travail qui est en télétravail, donc qui est chez moi, qui... Ben voilà, il faut contacter les partenaires, il faut mettre en place le calendrier des animations, etc. Et après, la partie sur le terrain, donc en animation, elle est tout le temps différente, suivant la commande des professeurs, sur ce qu'ils veulent travailler, les thématiques qu'ils veulent aborder. Et puis, de toute façon, j'essaye que ce soit différent à chaque fois, même si la thématique est la même. Pour le moment, j'avoue que c'est un peu le début pour moi, donc je teste plein de choses. Peut-être un jour, il y aura une journée type, mais pour le moment, ce n'est pas du tout le cas.
Tu ne t'ennuies pas?
Pas du tout.
C'est formidable. Et tu travailles avec des enfants, et moi, je trouve ça passionnant. Justement, comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce que tu leur proposes? Est-ce que tu leur annonces? Est-ce que parfois, c'est surprenant? Est-ce que tu auras des anecdotes?
Moi, je suis quand même souvent agréablement surprise par leur curiosité et leur savoir, malgré tout. J'ai déjà entendu dire des adultes dire ils y connaissent peut-être pas grand-chose ou quoi, mais en fait, quand je suis en animation avec eux, alors pas tous, mais il y en a quand même certains qui sont très alertes et très, très curieux, même qui savent beaucoup de choses. Hier, je faisais une animation sur les traces et indices d'animaux, donc on utilisait une clé de détermination, tout ça. Et un petit qui a entendu un pic vert qui m'a dit « Ah, c'est le pic vert !» Et j'aurais jamais soupçonné ça chez cet enfant. Wow. Mais d'un seul coup, voilà, il s'est un petit peu révélé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il connaissait plein de choses. Simplement, peut-être on n'en avait pas parlé jusque-là. Mais voilà, il y a quand même une curiosité tout le temps et une envie d'apprendre malgré tout, quoi. Qui, dès qu'on est dehors, ils sont très curieux, ils veulent... Voilà, très curieux, et des fois un peu aussi... Il y a 2 semaines, je pense, j'étais sur l'école de Villefort, on a trouvé des orvets sous une pierre, et très curieux, mais un peu effrayé quand même. mais voilà, ça leur... On comprend qu'ils ont envie et tout ça, même si des fois, il y a un petit peu de peur ou de...
D'appréhension,
ouais, voilà, c'est ça.
Normal, je les comprends. Est-ce que tu travailles aussi avec des adultes? Est-ce que ton public, parfois, c'est un public d'adultes?
Oui, ça peut. Ça peut, notamment sur les ENS dont je parlais tout à l'heure. Là, c'est des sorties grand public, qui sont à destination des publics familiaux, du coup. Voilà, même, je crois que fin juin, je suis avec un public peut-être plutôt du 3e âge. J'interviens aussi parfois dans les EHPAD. Voilà, il y a d'autres types de structures qui sont peut-être un peu moins banales, on va dire, communes, mais voilà, j'ai l'occasion d'y aller aussi.
Et les touristes, est-ce que pendant la saison, est-ce que tu as des animations où tu peux recevoir ce type de public, du tourisme, qui ne vivent pas ici?
Oui. Là, par exemple, tout ce qui est ENS, j'ai fait exprès de mettre pendant les grandes vacances, par exemple. Pour essayer aussi de toucher ce public-là, même si, bon, peut-être, remarque en venant en Lozère, il y a quand même une thématique environnement. Mais oui, j'ai essayé de mettre ça aussi pendant les grandes vacances. Voilà, si jamais on peut toucher quelques personnes qui viennent juste voir notre territoire et voilà, leur dire, bah voilà, vous êtes dans un territoire hyper riche, peut-être faites attention à ce que vous y faites, à comment vous circulez, comment vous êtes dans ce territoire-là, quoi.
Ah bah c'est super parce que c'est justement, on y vient. La sensibilisation à l'environnement, tout ça, c'est une question super importante aujourd'hui. Et justement, on parle d'éducation aussi à l'environnement. Donc, tu y as répondu, bah, les touristes essayent aussi de les sensibiliser. Mm-hmm. Et je trouve que c'est hyper important. Comment est-ce que tu construis tes interventions avec cette part d'éducation? Est-ce que c'est toujours en filigrane ou bien il y a un moment où que tu dédies plus à ça pendant l'animation?
Sur les animations grand public?
Oui.
J'ai plutôt tendance à vouloir à partir sur la corde sensible, donc plutôt partir sur une découverte assez générale. J'ai bien conscience qu'ils ne sont pas là pour recevoir une leçon de morale. Donc j'ai plutôt tendance à dire, venez découvrir avec moi et je vous partage... ma passion, et j'espère que ça suffit, entre guillemets, je pense pas que ça suffise, mais voilà, qu'il y ait juste un petit temps qui soit dans leur séjour, qui soit dédié à, on observe la nature, on essaye aussi d'en avoir moins peur, parce que il y a quand même beaucoup d'éléments, d'animaux ou de plantes, ou quoi, qui sont un peu, qui peuvent faire peur, qui ont plein d'idées reçues, donc on essaye de lutter contre ça aussi. Je fais pas de leçon de morale, je dis juste il y a ça, essayons d'en profiter, essayons d'étudier, essayons d'observer, de passer un temps tous ensemble et essayez de faire ça après chez vous, quoi. Enfin, pour moi il y a rien de mieux que de passer une matinée en nature, mais je comprends que ce soit pas pareil pour tout le monde, quoi.
Évidemment. Alors justement, on évoque ton secteur professionnel, tu en parles, on comprend bien que tu es sensible à tout ça. On peut pas parler de ton travail sans parler de changement climatique et de tout ce qui touche à l'environnement. Et j'imagine que du coup, tu viens nous le dire aussi, comme partout ailleurs, ce changement est perceptible et visible. Est-ce que tu le visualises, toi, dans ton quotidien, que ce soit dans tes balades perso ou dans les animations que tu fais? Comment est-ce que ça se manifeste pour toi, ce changement climatique? Et bien sûr, quel est ton point de vue à ce sujet?
On peut parler de cet hiver, hein. Il n'y a pas eu de neige, voilà, tout bonnement.
Et non.
Moi, c'est vrai qu'en ayant grandi sur le Mont Lozère, j'ai grandi avec des hivers où... les congères faisaient trois fois ma taille. Et aujourd'hui, quand il y a 10 cm, on est heureux. Et je me dis, c'est quand même... y a quelque chose qui cloche, quoi. Là, on ne peut plus, douter de savoir si le changement climatique est là. Il n'y a pas de doute, il est là. Et on le voit aussi dans l'arrivée des oiseaux, la façon dont... les périodes auxquelles ils arrivent, les périodes auxquelles ils repartent, et puis tout bonnement, le déclin de la biodiversité aussi passe par là. On a des étés peut-être plus chauds, où du coup il y a moins à manger parce que tout est cramé. On a aussi des oiseaux qui, avec les chaleurs qui sont là un peu plus rapidement dans le printemps, donc plus tôt au printemps, les oiseaux arrivent. Un coup de gel est toujours possible, et c'est là où malheureusement ils ont peut-être commencé à se reproduire, à avoir les œufs, etc. Et là, ça compromet toute la reproduction, soit les jeunes sont beaucoup trop petits pour résister au gel, etc. Et donc voilà, il y a quand même de la perte aussi sur ces oiseaux-là. Pareil, par exemple, pour les hirondelles qui arrivent, il est trop tôt, il n'y a pas d'insectes pour se nourrir. Alors, soit elles font demi-tour, mais ça demande quand même un engagement énergétique assez coûteux pour elles. Et y en a certainement qui ne reviennent pas, quoi, qui seront trop faibles pour faire l'aller-retour de nouveau, quoi.
C'est bien dommage. Et loin de nous l'idée de faire, comme tu dis, des leçons de morale et etc. Mais pour celles et ceux qui nous écoutent, Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que on peut leur donner des conseils pratiques, des gestes à adopter au quotidien ou non?
Si, si, il y a plein de choses à faire. Je pense que même à l'échelle très personnel et domestique, on va dire, chez soi, rien que si on a, surtout en Lozère, on peut avoir un tout petit bout de jardin, favoriser la biodiversité, ça va être les tontes tardives, les tontes ou pas tontes du tout, c'est même le mieux. Mais après, il y a plein de choses, si vous voulez installer des nichoirs à hirondelles, si évidemment, enfin des nichoirs en général, mais les nichoirs, ça s'étudie aussi, on met pas n'importe quel nichoir n'importe où. Et puis il y a plein de choses à faire vraiment pour accueillir la biodiversité chez soi. Et après, de manière générale, je pense que on peut s'engager dans des associations, on peut lutter. Il y a plein de choses à faire à plus grande échelle, quoi. Mais après, c'est je pense que c'est aussi à la sensibilité de chacun. Et voilà, on peut pas dire aux gens, on peut pas imposer tout ce qu'on devrait faire, quoi. J'ai bien conscience que les gens n'ont pas nécessairement le temps, ni l'envie, ni les connaissances. Et du coup, voilà, si on veut prendre un tout petit peu de son temps, il y a des choses très faciles à mettre en place, très rapides, et juste une petite recherche à Internet, souvent ça suffit largement, quoi. Et si jamais vous trouvez pas, n'hésitez pas à revenir vers la LPO, parce que nous, on peut aussi venir sur place, voir ce qui est possible de faire, quoi, tout simplement. Mais je suis sûre que même sans appeler la LPO, il y a des choses très, très simples à mettre en place.
Il y a déjà matière.
Il y a déjà matière.
Bon, tant mieux, moi j'apprends plein de choses. Une petite question perso, les boules de graisse pour les oiseaux l'hiver, on continue ou il faut faire attention?
Ça dépend où vous habitez et ça dépend de quoi elles sont faites. Je pense que le mieux, c'est de les faire soi-même, quoi qu'il arrive. Le mieux aussi, c'est d'éviter les boules de graisse qui sont dans des petits filets en plastique.
Zut, j'ai tout faux.
c'est vrai que en fait, les oiseaux, quand il n'y a plus de graisse à l'intérieur, ils peuvent se prendre les pattes dans le filet et rester accrochés là, quoi.
Ouais.
Et après, je reviens sur les périodes, c'est assez important, dans le sens où j'ai presque envie de dire que dans les Cévennes, c'est, avec le réchauffement climatique, encore une fois, c'est presque plus nécessaire, parce qu'on recommande de nourrir les oiseaux si et seulement si il y a des périodes de gel ou d'enneigement très longues. Très longue. Et du coup, dans les Cévennes, ça arrive de moins en moins. Sur le Mont Lozère, bon, il y a encore des périodes assez froides. Et si on veut nourrir, voilà, c'est vraiment seulement au cœur de l'hiver, pour pas après dérégler trop les ressources alimentaires des oiseaux, quoi.
Nous terminons avec ton agenda de la saison, Héloïse, si tu veux bien. Quelles sont les dates de tes prochaines interventions? Est-ce que c'est ouvert à tous? Est-ce que si on veut participer, comment on fait pour te contacter?
Alors, plein de choses. Les prochaines animations où je serai ou non, mais que la LPO, auquel la LPO participe, ce sera le 18 mai. Le 24 mai et le 25 mai, ça c'est vraiment dans le mois de mai, quoi. Donc le 18 mai, c'est les journées refuges. La journée refuge, elle se déroulera à Baours, c'est au-dessus de Mende, vraiment à 5 km de Mende, au nord. Et en fait, c'est des journées de rencontres qu'on organise tous les ans dans un refuge. Donc un refuge LPO, c'est un endroit qui est classé refuge, et c'est le propriétaire ou le locataire de cet endroit qui demande à ce que son jardin soit classé refuge. Et nous, ça nous permet... Enfin, disons que la démarche vient du propriétaire et le propriétaire s'engage à adopter des pratiques pour améliorer la biodiversité ou accueillir la biodiversité dans son jardin. Et donc tous les ans, on organise ces rencontres pour que les personnes qui sont propriétaires de refuges partagent leurs connaissances, partagent leur savoir-faire, etc. Donc ça aura lieu le 18 mai à Baours. Et ensuite, on propose aussi une journée, donc le 24 mai, moi je serai à Saint-Chély-d'Apcher, c'est la fête de la nature. Et donc j'aurai un stand là-haut pour parler biodiversité, pour parler aussi qu'est-ce qu'on fait au jardin à cette période-là pour accueillir la biodiversité. Il y a plein de choses à faire encore une fois. Et puis voilà, le 25 aussi, c'est une journée de rencontre. J'ai plus le lieu en tête. Je crois que c'est dans les... Enfin, c'est sûr que c'est dans les gorges du Tarn, mais j'ai plus exactement le lieu en tête.
C'est pas grave. On peut retrouver ces informations peut-être sur la toile.
Tout à fait. Vous pouvez retrouver ces infos sur lpooccitanie.fr, quelque chose comme ça, sur l'agenda. Et n'oubliez pas, sur l'agenda, vous allez avoir plein d'animations. C'est parce que toutes les animations de la région sont répertoriées. Donc tout en haut, il y a un petit onglet qui s'appelle département. Il faut bien cliquer sur Lozère et là, il y aura les animations que la Lozère propose.
Et nous allons mettre tous les liens utiles, toutes ces informations dans un instant sur radiobartas.net. Est-ce que tu voulais nous partager autre chose, nous faire une petite annonce de quelque chose ou nous dire quelque chose qui te tient à cœur ?
Non, je sais pas. C'est le printemps. Prenez vos jumelles, prenez une loupe de botaniste, n'importe quoi. Partez à la rencontre de toute la biodiversité qui revient, qui revit là. C'est juste incroyable. Moi, c'est les premières sorties des reptiles là en ce moment et je me régale. Serpents, lézards, tout ça, c'est... C'est maintenant quoi, il faut y aller, tout ressort, tout revit, c'est trop beau à voir, il y en a dans tous les sens, donc c'est vraiment la période, si vous voulez, toutes les périodes sont bonnes, mais là en ce moment c'est vraiment beau à voir quoi, tout se réveille, c'est super.
Effectivement, voilà. Il y a plein de choses à voir, alors sortons. Allons nous balader, allons prendre l'air et allons admirer la belle nature. Héloïse, merci beaucoup d'être venue au micro de Radio Bartas aujourd'hui, nous partager ta passion et ton travail.
Merci.
Merci beaucoup.
Pleure pas, crie pas, n'oublie pas que tu as 20 ans. Ne te laisse pas vieillir ou tu vas mourir. Notre vie n'est pas foutue, faut pas qu'on s'habitue. Réveille-toi, debout, tiens-toi droit. On va leur montrer qu'on peut tout changer. Je sais bien que les oiseaux. Yeah.
Et on vient d'écouter Les Oiseaux, la deuxième partie, toujours de Daniel Balavoine. Et puis en plat principal maintenant, c'est du lourd. C'est lourd. Non, je tenais à profiter que l'équipe m'ait laissé le micro. Une fois n'est pas coutume. D'ailleurs, comme dirait l'autre, on n'a jamais su à partir de combien de fois il était coutume. Non, je plaisante, ils me l'ont laissé, le micro. Ils sont cool à Radio Bartas. Et je profite donc de ces instants des Bartas pour faire un petit retour sur le stage que je viens d'effectuer ici. Alors, pour tout vous dire, j'ai passé un super stage. C'était vraiment le fun, comme on dit au Québec, et j'ai appris plein de choses. Mais j'en entends déjà certains, ah oui, vraiment. Et tu as appris quoi, par exemple ? Eh bien, j'ai appris à écrire, réaliser et monter des reportages et des interviews. À utiliser les nombreux outils dont on se sert en radio, même d'un fer à souder. Ça vous épate, hein ? Moi aussi, ça m'a épaté. J'ai appris à me servir de tout un tas de petits boutons et de petits trucs que vous ne voyez pas, que vous n'imaginez pas, chères auditrices et auditeurs, mais qui sont là, je vous assure. Et en studio d'enregistrement, il y en a partout. J'ai découvert que le journalisme, c'est passionnant. Des interviews, les émissions, tout comme la technique. J'ai aussi appris que faire de la radio, c'était un vrai métier. Eh oui, on n'est pas là pour enfiler des perles, mais des monnettes. Ben oui, sur les micros. Allez, plus sérieusement, j'ai adoré mon stage ici et je remercie du fond du cœur Véro, Léo et Ben qui m'ont accueilli et qui m'ont montré une multitude de grandes et de petites choses qui font que c'est tout ça la radio en fait. Ce sont des personnes merveilleuses et si vous ne les connaissez pas encore et si vous êtes vous aussi curieux de savoir comment ça se passe à la radio, eh bien venez les rencontrer. Merci aussi à celles et ceux que j'ai croisés pendant ces 3 semaines et qui, de près ou de loin, m'ont permis de découvrir ce fantastique boulot. Et à vous qui vous reconnaîtrez, bénévoles, invités, interviewés, volontaires et j'en passe, un grand merci. Vous êtes bien sur Radio Bartas, retour sur la 8e édition du Festival au son qui s'est déroulé à Chanac le vendredi 11 avril 2025. Nous avons eu le plaisir de rencontrer Fabien Moutet, qui est le directeur artistique du festival Détour du Monde. Détour du Monde, c'est un festival qui est co-organisé avec les Scènes Croisées de Lozère et qui a lieu chaque été. Et le Festival au son, c'est un festival qui, lui, a lieu aussi chaque année, mais au mois d'avril. Pour commencer, Fabien nous explique le festival et nous dit comment il a été créé, comment est née cette idée.
En 2017, le Réseau National des Musiques du Monde, Zone Franche, crée une campagne de sensibilisation à l'occasion des présidentielles qui s'appelait Au son citoyen à l'époque, relayée notamment par beaucoup d'artistes de musique du monde et afin de sensibiliser le public et les candidats aux élections sur le fait que la diversité, ça passait aussi par la musique. Nous, notre moyen, évidemment, on est très impliqués aussi dans le réseau Zone Franche. Et pour nous, notre moyen de mettre en avant cette campagne, en fait, c'est d'organiser un week-end de concerts, ce qu'on a fait, pour mettre en avant au son. Donc cette campagne, en fait, elle a été très relayée, elle a eu une belle vie. Et Zone Franche a décidé, en fait, de prolonger cette campagne et de faire de Au son un web média collaboratif dédié aux musiques du monde, puisqu'on était dans une période où justement il n'y avait plus de magazines spécialisés dédiés, déjà à la musique c'était chaud, mais alors les musiques du monde n'en parlons pas quoi. Donc il y a vraiment eu cette volonté en fait de transformer Au son en web média, et depuis en fait nous on a continué à valoriser ce web média à travers les soirées qu'on organise tous les ans au mois d'avril. Cette année, c'est la 8e édition. Ça commence à faire quelques années déjà. Et c'est chouette, c'est vraiment un moment qui est venu s'ancrer sur le territoire et qui, moi, j'aime beaucoup. En fait, j'aime à dire en fait, que cette soirée qui arrive à l'orée du printemps vient réveiller un peu les âmes après l'hiver. Et pour nous, c'est notre premier événement un peu d'envergure qui nous amènera jusqu'au festival cet été.
C'est la 8e édition du Festival au son. Fabien nous explique comment ce festival a évolué au fil de toutes ces années.
Il y a eu l'avant et l'après-Covid. Où l'avant-Covid, on était beaucoup dans le speed, tout ça. Et en fait, nous, on a gardé cette période de Covid, le fait de prendre le temps, en fait, de construire les choses, prendre le temps de re-réfléchir l'ensemble de nos actions et notamment les événements qu'on organise en fait pour prendre le temps avec les artistes, avec le public, avec tout le monde.
Cette année, c'est le Grand Bal de René Lacaille. Ce concert marque les 70 ans de carrière du légendaire musicien René Lacaille, une icône incontournable de la scène musicale réunionnaise et mondiale. La question, c'est de savoir comment ont été pensés, imaginés tous ces moments.
Et maintenant, on fait venir les artistes un peu avant sur le territoire. Et les artistes vont à la rencontre des écoles, on va à la rencontre des publics. Là, notamment avec René, René est arrivé lundi. Mardi, il était à l'école publique de Chanac. Mercredi après, on a fait une rencontre publique au Moulin d'Auxillac. En fait, on se déplace aussi, nous, l'ensemble des choses qu'on organise, on veut aussi qu'elles rayonnent. Et du coup, on se déplace un peu sur tout le territoire. Et c'est ce qu'on veut. Et là, c'est la soirée de ce soir, c'est l'apothéose un peu de cette semaine qu'on vient de vivre avec René, qui était juste assez folle, quoi. Et cette soirée va être encore plus folle. Alors, au-delà du fait qu'on est complet, c'est les artistes qu'il y a sur scène que René a réussi justement à fédérer autour de lui pour être là aujourd'hui, ce 11 avril à Chanac. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Mais c'est ce qui fait que ça donne du sens à nos actions, à ce qu'on fait. Et vraiment, on est content de le faire. Et juste ça, on est content de le faire.
Cette année, René est ici avec 14 invités de toutes parts et de partout. 14 invités qui ont répondu présent à son invitation et à qui il a donné rendez-vous aujourd'hui. Fabien nous explique comment l'orga d'Ausson et de Détour du Monde choisit les artistes.
C'est un peu c'est le jeu des rencontres en fait. René, ça fait depuis 2014 qu'on le connaît, qu'il est venu sur le territoire. C'est un peu... Il y a des choses qui s'imposent naturellement. Et là vraiment, cette soirée, ça part il y a deux ans d'une discussion avec Germain qui s'occupe de la tournée de René Lacaille sur le fait qu'on arrivait à ses 70 ans de carrière. Et bien nous, comme René, c'est la famille, un anniversaire, ça se fête. Et bien du coup, on réunit la famille et on fait ça. Mais tu vois, on n'est pas du tout dans la réflexion, dans la course aux artistes ou quoi que ce soit. C'est vraiment la rencontre humaine avant tout. Et puis des fois, les choses se passent. Et c'est comme sur le festival. Sur le festival, la plupart du temps, les programmations, les artistes qu'on retrouve sur le festival sont liés à des rencontres ou des rencontres de rencontres, des rencontres humaines pour certaines en fin de soirée à 3h du matin. Hein. Il y a des artistes où ça s'est joué à 3h du matin autour d'un after ou des choses comme ça. Et c'est toujours un peu ça. En fait, il n'y a jamais de hasard dans nos programmations.
Et comme nous parlons de rencontres humaines, on en profite pour parler de la rencontre des radios associatives avec ce type d'événement. Et c'est au tour de Ben de prendre le micro pour échanger à ce sujet avec Fabien.
Effectivement, c'est une histoire de rencontre extraordinaire. Et comment elle a commencé cette aventure des radios et de la radio Rumeurs du Monde ?
Alors si je me souviens bien, le lien à la radio Rumeurs du Monde, elle naît aussi d'une rencontre à l'époque avec Étienne Huvert et c'est Hector Matanza. Sur la volonté de... En fait, c'est Hector Matanza organisé à s'occuper, participer à un festival qui s'appelait, dont j'ai oublié le nom, en Belgique, et qui avait déjà créé une radio éphémère comme ça, qui portait le nom du festival. Donc nous, on a noué des liens avec c'est Hector Matanza et est née cette idée, justement, de créer une radio éphémère sur le festival, mais que de manière à ce qu'il fédère les radios associatives non commerciales de la région. Parce que tout simplement, pour nous, les radios associatives sont plus importantes que d'avoir une newsletter. En tout cas, il y a un véritable lien qui se construit. C'est vraiment des médias de proximité qui sont hyper importants et qui font vraiment le relais de ce qu'on fait en termes de communication, tout ça. Et voilà, et de là est née la radio Rumeurs du Monde, à l'époque, en partenariat avec les Francas du Tarn et Julien. Après, une radio éphémère qui soit le relais, en fait, de ce qui se passe pendant le Festival des Tours du Monde sur l'ensemble du territoire. Cette radio a très vite fédéré pas mal de radios associatives, et les premières, c'est quand même assez génial. C'est la 12e édition, je crois, cette année, 12e ou 13e édition. Et en fait, il y a beaucoup de radios qu'on retrouve d'une année sur l'autre, qui sont là depuis la création. Radio Sommière, Radio RGO, tout ça. Et voilà, ça fédère. La radio est toujours là. Et pour nous, vraiment, maintenant, c'est des liens d'amitié, en fait, qui sont créés avec les radios et dont on a grand plaisir à accueillir cette année.
Voilà pour le Festival Ausson. Merci beaucoup à Fabien Moutet, directeur artistique du Festival Détour du Monde. Et justement, Détour du Monde, ce sera en itinérance du 12 au 16 juillet et à Chanac les 18 et 19 juillet 2025. Retrouvez toute la prog sur détourdumonde.org. Voilà pour ces instants des Bartas. On se quitte avec Ayo, qui sera le vendredi 18 juillet à Chanac. Merci à toutes et à tous. À très vite. Salut, salut!
Please love me. I'm dying. I'm crying.